Les cours du Collège de France, Maria Melchior, chère Santé publique.
Bonjour, il est 10h, je vous propose qu'on commence pile à l'heure. Donc merci d'être là aujourd'hui pour ce premier cours des enseignements sur la santé mentale que je vais avoir le plaisir d'animer au cours des prochaines semaines. Donc vous savez que ce cours, alors je vous explique peut-être juste un tout petit peu les éléments de comment ça va se dérouler. Donc ce premier cours va durer environ 40-45 minutes, puis je vous proposerai un temps d'échange et de questions si vous voulez aborder certains des points dont j'aurais parlé. Puis il sera suivi par un séminaire animé par Jean-Sébastien Edelimann, qui est maître de conférence en sociologie à l'Université Paris-Cité et qui parlera plus précisément, qui présentera un regard sociologique sur les questions de santé mentale de l'enfant sur lesquelles il travaille. L'idée étant que cet échange soit un tant soit peu interdisciplinaire. Moi, je vous parlerai de la manière dont on mesure la santé mentale quand on cherche à faire des enquêtes épidémiologiques, quand on cherche à produire des chiffres sur les problématiques psychiques. Et le professeur Edelimann prendra un regard un tout petit peu plus distancié par rapport à ce que ça implique et comment faire. Donc je vous propose de commencer tout de suite par ce premier cours qui s'intitule « Qu'est-ce que la santé mentale ?» une vaste question, on fera un petit tour d'horizon en 45 minutes et j'espère que ce premier cours suscitera surtout des questions chez vous et peut-être quelques réponses. Alors voilà rapidement le plan de la présentation. Je vais parler un tout petit peu de ce que signifie cette question, qu'est-ce que la santé mentale, comment elle a été abordée à différentes périodes, comment on mesure les problèmes psychiques, notamment dans les enquêtes épidémiologiques, les spécificités que cela implique. Puis j'aborderai quelques débats et controverses actuelles, puisque ces définitions évoluent et la manière dont on les envisage aussi, avant de peut-être vous proposer une réflexion sur la mesure de la santé mentale demain. Alors, voilà. Bon, si je vous dis santé mentale, je pense qu'on a tous et toutes une certaine représentation de ce que cela signifie. Certains d'entre nous vont penser à des troubles sévères, d'autres peut-être aux tentatives de suicide, à la dépression. Les médias ont énormément couvert ce sujet au cours des derniers mois, depuis l'épidémie de Covid en particulier. Bien sûr, vous savez tous que le gouvernement a décidé que l'année 2025, puis maintenant 2026, serait... il y aurait une grande cause nationale santé mentale pour aborder ces questions un tout petit peu plus en profondeur. En épidémiologie, on a vraiment besoin, dans d'autres disciplines scientifiques, de définir ce dont on parle. Et j'aimerais peut-être commencer d'abord par cet aspect. De quoi parle-t-on ? Alors, il existe une définition tout à fait officielle de la santé mentale proposée par l'Organisation mondiale de la santé en 2014. Cette définition aborde la santé mentale d'une manière très très large. Donc il s'agit d'un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler, de contribuer à la vie de la communauté. Donc un programme très très large. La santé mentale fait partie de la santé et du bien-être sur lesquelles reposent nos capacités individuelles et collectives à prendre des décisions, à nouer des relations, à bâtir le monde dans lequel nous vivons. La santé mentale est un droit fondamental de tout être humain. C'est aussi un aspect essentiel du développement personnel, communautaire et socio-économique. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de cette définition de la santé mentale, si c'est quelque chose qui vous parle. Donc l'Organisation mondiale de la santé... à proposer cette définition pour bien distinguer le fait que la santé mentale, ce n'est pas juste l'absence d'un trouble mental, mais qu'il s'agit donc d'une réalité complexe qui varie d'une personne à une autre, avec différents degrés de difficultés, de souffrance et de manifestations sociales et cliniques. Alors, je pense que si on lit cette définition de manière un petit peu précise, on voit tout de suite à quel point le champ est large, bien sûr, à quel point il recouvre donc à la fois des manifestations de troubles psychiques, de troubles psychiatriques qui relèvent des classifications des maladies psychiatriques ou de la classification internationale des maladies et du travail des psychiatres mais aussi d'autres pans de notre vie à tous et à toutes qui ne relèvent pas forcément de la psychiatrie. Vous voyez qu'il est question de droit et qu'il est question d'épanouissement et de vie productive. Alors peut-être que voilà, on pourra discuter du corpus intellectuel et idéologique dans lequel se situe cette définition. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il faut bien avoir en tête qu'actuellement, quand on parle de santé mentale, il ne s'agit pas seulement des troubles psychiatriques, mais il s'agit, ils font partie bien sûr de la santé mentale, mais pas uniquement. Le terme santé mentale évoque plutôt quelque chose que j'ai cherché à illustrer ici, qui est donc sur un continuum, c'est-à-dire que il s'agit à la fois d'émotions, d'humeurs et de sentiments qui peuvent évoluer dans le temps, qui peuvent connaître des fluctuations, qui concernent notre cerveau, comme vous voyez sur l'ensemble de ces représentations graphiques, et surtout qui d'une certaine manière concernent beaucoup beaucoup de monde, puisque on estime que 12 millions de Français ont, à un moment donné, une maladie de l'ordre de la santé mentale la santé mentale et les conséquences qu'elle engendre est la première dépense de l'assurance maladie actuellement. Alors, encore une définition un petit peu institutionnelle, je dirais. Si on se réfère à la manière dont Santé publique France aborde, donc Santé publique France, c'est l'Agence nationale de surveillance de la santé de la population, qui est en charge de produire des statistiques pour connaître l'état de santé des Français et pouvoir informer donc les autorités sur les problématiques les plus actuelles et les plus prégnantes. Donc vous voyez que la manière dont Santé publique France aborde cette question de la santé mentale intègre évidemment la question des troubles psychiatriques, qui relèvent de la médecine, mais aussi celle de la détresse psychologique. Donc c'est peut-être des difficultés ou des sentiments, des émotions qui sont en amont des troubles psychiatriques, si vous voulez, mais aussi la santé mentale positive, c'est-à-dire le sentiment de bien-être, d'épanouissement personnel, les ressources psychologiques et les capacités d'agir que chacun d'entre nous peut mobiliser. Donc on est vraiment sur l'idée d'un très large spectre. Alors évidemment, différents types de professionnels vont intervenir à différents endroits de ce spectre, tout ça pour vous dire que vraiment quand on s'intéresse à la santé mentale, que ce soit en termes de recherche ou d'action publique, il ne s'agit vraiment pas uniquement de s'intéresser aux personnes qui ont des troubles psychiques, à l'organisation de la psychiatrie et à la manière dont se passent les prises en charge cliniques. Donc, en fait, on a beaucoup, beaucoup avancer, évoluer. Alors on peut évidemment discuter de tout ça. Est-ce que ça suscite énormément de débats dans la communauté des psychiatres, hein, notamment sur justement quelle est la place de la psychiatrie aujourd'hui, maintenant qu'on a élargi cette notion de santé mentale à des considérations qui sont au-delà de la maladie. On a vu émerger aussi un certain nombre de nouveaux métiers, des coachs en développement personnel, différents types de professionnels qui s'inscrivent aussi dans ce champ très très large de la santé mentale. Donc tout ça peut évidemment donner lieu à énormément de questions et de réflexions. Où nous en sommes aujourd'hui, et bien sûr c'est une évolution majeure dans l'histoire, puisque la santé mentale est une problématique qui a été étudiée depuis que la médecine existe, que cette définition actuelle de la santé mentale est arrivée très très tard dans le cours de l'histoire de la médecine. Alors si on revient aux origines des théories médicales, alors, on a l'habitude de dire que c'est Hippocrate, à peu près 400 ans avant Jésus-Christ, puis Claude Galien, qui était un médecin italien, de l'Antiquité, qui sont les premiers à avoir conceptualisé une approche qui n'était plus religieuse, mais plutôt scientifique de la médecine. Qui ont donc conçu une théorie que vous connaissez certainement, la théorie des humeurs, qui sous-entendait que la santé était le résultat d'un équilibre de différents types de forces au sein de chacun et chacune, que, en particulier, quatre humeurs qui sont représentées ici de manière imagée s'opposent, s'opposaient en chaque personne, le sang, le phlegme, la bile jaune et la bile noire, et que c'était les déséquilibres de ces quatre forces qui produisaient différents types de maladies. Selon le type de déséquilibre et selon l'humeur qui était la plus prégnante, on avait certaines manifestations de certains types de problèmes de santé plutôt que d'autres. Par exemple, la bile noire est ce qui a donné lieu à la définition de la mélancolie, donc Hippocrate, puis ensuite Galien, quand il a repris la classification des maladies d'Hippocrate, a proposé que les personnes qui étaient particulièrement tristes, donc qui avaient des symptômes qu'on appellerait la dépression aujourd'hui, mais qui était considérée comme étant mélancolique, l'était parce qu'elles avaient trop de bile noire et qu'il fallait mettre en place un certain nombre de traitements pour pouvoir rééquilibrer leur bile. Voilà. Bon, c'est une vision... alors, ce qui est intéressant dans la classification et dans la réflexion d'Hippocrate puis de Galien, c'est que, en fait, ce sont les... Hippocrate est sans doute le premier à avoir été parti de l'observation clinique, de l'observation des symptômes, et à avoir essayé de faire le lien entre différents types de symptômes qu'il observait chez ses patients et des causes possibles de ces symptômes. Essayer de trouver des causes à partir de là. Alors, un autre médecin qui a été très très important dans l'histoire de la médecine, bien sûr, et puis l'histoire de la médecine de la santé mentale également, c'est Avicenne, qui est un médecin du XIe siècle, né dans ce qui se trouve actuellement en Iran. Il a traduit les œuvres d'Hippocrate et de Galien en arabe et les a diffusées en Orient. Il a essayé de combiner la théorie hippocratique avec celle des âmes d'Aristote. Il s'intéressait beaucoup à l'esprit. Et il y a une citation notamment de son fameux canon de la médecine où il essayait de distinguer aussi où pouvaient se situer différents types de forces et d'humeurs dans le corps au travers de dessins anatomiques. Une citation qui dit « Nous devons considérer que l'un des meilleurs traitements, l'un des plus efficaces, consiste à accroître les forces mentales et psychiques du patient, à l'encourager à la lutte, à créer autour de lui une ambiance agréable et à le mettre en contact avec des personnes qui lui plaisent. » Donc il y avait un tout petit peu, alors évidemment on l'interprète aujourd'hui avec notre regard actuel, mais on peut dire que d'une certaine manière, il était très en avance de son temps sur le fait que la santé mentale, c'est aussi on a une force psychologique si on la déploie, si on la développe, permet d'anticiper un certain nombre de problèmes. Néanmoins, jusqu'à très très tard, la vision de la santé mentale la plus fréquente était peut-être plutôt celle qui est représentée ici par le tableau qui s'appelle « La cure de la folie » de Jérôme Bosch, puis plus tard « La maison des fous » de Francisco Goya. C'est-à-dire que, on considérait la santé mentale uniquement au prisme de la maladie psychique, de la folie, qui était très mal comprise. Alors ici, ce qu'on voit sur ce tableau, c'est un médecin qui essaie de guérir un patient de la folie en incisant, je ne sais pas si vous voyez bien, en faisant une incision dans son cerveau, puisqu'on pensait que ça permettait de faire sortir la folie de l'esprit. C'était sans doute pas un traitement très efficace, c'était difficile de faire des essais randomisés pour savoir si ça marchait ou pas et quelles étaient les conséquences. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on traitait la folie. Et puis surtout, on enfermait les personnes qui étaient considérées comme étant, comme ayant des troubles psychiques dans des lieux écartés des villes, donc des maisons des fous, des asiles. Si vous avez l'occasion de visiter l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, il y a des conférences guidées très très intéressantes qui permettent de voir les lieux où étaient enfermés les hommes, les femmes. Il y a le bâtiment des folles notamment qui existe toujours et qui peut toujours être vu. Et on se rend compte de la manière dont la folie était traitée, c'est-à-dire qu'on enfermait les gens, ils ne sortaient pas de ces lieux et ils étaient à l'écart de la société. Alors bien sûr, dans l'histoire de la psychiatrie, un des médecins particulièrement importants est Philippe Pinel, qui était médecin-chef à l'hôpital de la Salpêtrière et qui, à la fin du XVIIIe siècle, a révolutionné la pratique de la psychiatrie en délivrant les personnes qui étaient donc enfermées à la Pitié-Salpêtrière, à la Salpêtrière plutôt, de leur chaîne. Il est généralement considéré comme une figure majeure de l'humanisation des soins psychiques, même si bon, les gens étaient quand même enfermés dans des asiles. Il a aussi été un des pionniers des premières classifications des troubles psychiques, qui en fait, quand même entre Hippocrate, Galien et le XVIIIe siècle, n'avaient pas énormément évolué. C'est-à-dire qu'on en était encore quand même principalement à la théorie des humeurs et à une vision très peu scientifique en réalité de la santé mentale. Donc, à partir de Pinel et surtout au XIXe siècle, avec le développement alors à la fois des techniques médicales, des statistiques et aussi des différentes méthodes d'expérimentation, un certain nombre de psychiatres, et donc notamment Émile Kraepelin, qui est particulièrement célèbre pour avoir identifié les symptômes de la schizophrénie, qui s'appelait dementia praecox, qu'il a appelé dementia praecox puisqu'il pensait que c'était un type de démence précoce. Donc ces médecins ont commencé à observer de manière plus systématique les manifestations des différents troubles psychiques, à les répertorier, à les organiser en classification. À partir de là, les classifications modernes ont émergé. Avec d'ailleurs des... Enfin, voilà, comme je disais, Kraepelin est vraiment le père de la schizophrénie. La définition de la schizophrénie a en partie évolué depuis, mais en réalité, il a vraiment posé les bases qu'on retrouve dans les classifications existantes aujourd'hui. Alors, il s'est quand même passé des choses au XVIIIe siècle, alors notamment avec les Lumières. Il y a un autre médecin qui est très célèbre et qui a joué un rôle important qui s'appelle William Cullen dans la définition des troubles. Mais disons que il a fallu attendre le XXe siècle les classifications internationales des maladies, mais surtout le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux proposé par l'Académie américaine de psychiatrie pour avoir une classification assez organisée et systématique des troubles psychiques. Pourquoi ces classifications ont-elles émergé ? Parce que à partir de la Première Guerre mondiale, mais surtout au moment de la Seconde Guerre mondiale, les psychiatres américains ont vu la nécessité de pouvoir, d'évaluer à grande échelle les conscrits qui partaient faire la guerre en Europe, pour pouvoir identifier ceux qui avaient des difficultés psychiques déjà ou qui risquaient d'en avoir à la suite de leur déploiement. Et les classifications qui avaient été proposées par des médecins tels que Kraepelin et qui s'appuyaient surtout sur les symptômes psychiques observés parmi des personnes qui avaient des troubles sévères ne pouvaient pas correspondre à l'ensemble des difficultés, enfin ne correspondaient pas au spectre des difficultés psychologiques qui pouvaient être exprimées par les conscrits qui partaient. Donc, pour simplifier, Kraepelin avait observé des patients qui étaient hospitalisés. Donc, il avait défini les symptômes de la schizophrénie, des démences précoces, par exemple, des démences de différents types de troubles cognitifs. Mais la classification qu'il a développée ne permettait pas d'identifier si quelqu'un avait un trouble dépressif, un trouble anxieux ou avait possiblement un risque de décompenser à la suite du déploiement pendant la guerre. Tout ça a donné lieu à beaucoup de discussions et beaucoup d'interrogations sur la possibilité de pouvoir mesurer à grande échelle les troubles psychiques. Et à partir des années 50, les psychiatres américains ont donc proposé une classification. Les premiers manuels diagnostiques et statistiques étaient très largement basés sur les théories de la psychanalyse, puisque ces théories-là qui étaient à l'époque dominantes et qui expliquaient les difficultés psychologiques qui servaient à expliquer les difficultés psychologiques, ces théories étant basées sur l'idée que nous vivons des conflits internes qui s'expriment par différents types de symptômes. Et donc les premières versions du DSM partaient non pas des symptômes, mais de d'une approche plutôt théorique sur le fait que, sur l'observation des manifestations des conflits internes que les gens présentaient quand ils étaient face à leurs soignants. Donc le DSM est parti de ça, mais cette classification a connu un certain nombre de difficultés d'application, en particulier le fait que le DSM donc, a été conçu pour pouvoir mesurer de manière reproductible et à grande échelle les troubles psychiques. Or, les symptômes basés sur les conflits internes étaient très difficiles à évaluer. Et donc, chaque soignant pouvait évaluer de manière différente ces symptômes, ce qui, du coup, ne répondait pas à la nécessité de pouvoir obtenir des diagnostics reproductibles et facilement observables. Donc il y a eu une évolution au cours du temps jusque dans les années 80, une révolution complète du DSM qui est passée à une évaluation des troubles psychiques uniquement par les symptômes. Là aujourd'hui, toutes les théories psychanalytiques ont entièrement été écartées de cette classification et elles ne se basent que sur l'observation des symptômes, ce qui donne lieu aussi à des critiques, mais ça on pourra peut-être y revenir. Néanmoins, l'avantage, en tout cas pour pouvoir faire de la recherche et pour pouvoir faire des études épidémiologiques à grande échelle, c'est que ces symptômes sont relativement observables et peuvent être mesurés, que ce soit par les personnes elles-mêmes, si c'est en répondant à des questionnaires, ou par des personnes qui les évaluent. Alors, pour vous donner peut-être un exemple de quelques troubles mentaux fréquents tels qu'ils sont définis dans le DSM, voilà, par exemple, la dépression, qu'on connaît, qui est un terme qui est beaucoup, beaucoup utilisé, est défini par plusieurs symptômes. Les deux principaux et qui doivent forcément être présents, c'est un sentiment de tristesse ou de perte d'intérêt, une perte de plaisir dans les activités qu'on réalise au quotidien. Et ces deux symptômes doivent être accompagnés par cinq autres symptômes parmi une liste proposée par le DSM, donc qui recouvre la perte de poids, mais il y a aussi c'est-à-dire les variations de poids, puisque c'est principalement ce qu'on observe, c'est principalement des pertes de poids, mais certaines personnes, au contraire, prennent du poids, donc il y a des variations dans un sens comme dans l'autre, l'insomnie ou l'hypersomnie, l'agitation ou le ralentissement psychomoteur, la fatigue, le sentiment de culpabilité, des difficultés de concentration et dans les cas les plus graves, des pensées morbides ou des pensées suicidaires. Donc, la manière dont le DSM est conçu nous indique qu'une personne, pour répondre aux critères de la dépression, la personne a au moins des symptômes de tristesse, de perte d'intérêt ou de plaisir et plusieurs des symptômes parmi ceux qui sont indiqués ici. Donc, je vais vous le montrer dans quelques instants. On a des questionnaires qui permettent de mesurer ces symptômes. Je pense qu'on voit tout de suite à quel point le diagnostic est quand même pas très... Alors, à la fois, la dépression, on voit bien de quoi il s'agit, et en même temps, c'est un diagnostic qui n'est pas très précis, parce que si on peut soit perdre du poids, soit en gagner, être insomniaque, ou au contraire, dormir beaucoup, être agité, ou au contraire... être très ralenti, bon, voilà, on voit bien qu'il y a déjà une multiplicité de symptômes qui peuvent s'exprimer, voilà, qui ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de discussions sur le fait que la dépression est un trouble, et ça j'y reviendrai, probablement très très hétérogène en réalité. D'ailleurs, le DSM a été révisé en 2013, il y a eu beaucoup de discussions sur les spécificités de la dépression chez les hommes, par exemple, parce que c'est les symptômes qui sont listés ici et qui proviennent de recherches qui ont été menées au cours des 50 dernières années à partir des versions du DSM précédentes sur la fréquence du trouble dans différents sous-groupes de des populations, etc., montrent que les femmes sont en général deux fois plus souvent déprimées que les hommes. Et il est possible que les femmes souffrent plus de certains types de troubles que les hommes, mais il y a eu une discussion sur le fait que les symptômes qui sont listés ici sont peut-être ceux qui caractérisent plus particulièrement les femmes quand elles sont déprimées, et que d'autres types de symptômes comme l'irascibilité, l'irritabilité, des colères très fréquentes qui peuvent caractériser la dépression chez les hommes, enfin en tout cas c'est ce que suggèrent certains psychiatres, ne font pas partie de cette classification et donc voilà, de manière un tout petit peu logique, on retrouve plus de cas de dépression chez les femmes. Voilà. Quoi qu'il en soit, voici comment est définie la dépression aujourd'hui dans le DSM. Pour avoir un diagnostic de dépression, il faut que ces symptômes durent plus de 15 jours. Et avec ces définitions, on estime qu'environ 5 à 7% de la population est concernée à tout moment, en France en tout cas. Il y a des variations entre pays, mais en France, ce sont à peu près les chiffres qu'on obtient. Et ce que nous montrent des études sur le long terme, c'est que si un épisode moyen de dépression dure environ 6 mois, dans la moitié des cas, en réalité, la dépression dure soit plus longtemps, soit les épisodes dépressifs peuvent être récurrents. Et donc, on estime qu'il y a environ 50% de persistance. On parle aussi de dépression résistante, par exemple. D'autres types de difficultés psychiques qui sont particulièrement fréquentes en population générale, les troubles anxieux, qui sont définis par une anxiété forte et durable sans lien avec un danger ou une menace réelle et qui perturbent le fonctionnement normal et les activités quotidiennes. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que le DSM et la classification internationale des maladies pour ce qui relève des troubles psychiques se basent sur l'idée que on mesure des symptômes et leurs répercussions sur la vie quotidienne des personnes. D'une certaine manière, si on a certains types de difficultés, mais qu'elles n'ont pas de répercussions négatives sur la vie de tous les jours et sur les activités qu'on est censé mener, il ne peut pas s'agir de troubles psychiques. Voilà, c'est un peu le cœur du diagnostic. Alors, parmi ces troubles anxieux, les plus fréquents sont des phobies spécifiques, l'arachnophobie, la peur des hauteurs, par exemple, le trouble panique, l'agoraphobie, qui est la peur des foules, le trouble anxieux généralisé, le trouble obsessionnel compulsif et l'épisode de stress post-traumatique qui fait forcément suite à un événement de vie traumatisant, que ce soit un tremblement de terre ou des faits de violence, par exemple. Donc, les enquêtes épidémiologiques nous enseignent que les troubles anxieux sont plus fréquents que la dépression. Ils concernent 5 à 17% de la population à tout moment et environ une personne sur 5 au cours de la vie. Elles donnent moins lieu à des prises en charge médicales. Pour la dépression, on estime en France qu'environ une personne sur 3 ayant les symptômes listés ci-dessus a recours à des soins va chez un professionnel de santé, la plupart du temps un médecin généraliste. Les recours aux psychiatres ou aux psychologues sont plutôt secondaires. Pour ce qui est des troubles anxieux, les recours aux soins sont moins fréquents, mais c'est peut-être aussi parce que l'impact fonctionnel des troubles anxieux est peut-être plus... moins brutal, en tout cas dans certains cas. Par exemple, si on pense aux phobies spécifiques, on peut probablement, d'une certaine manière, vivre avec plus facilement qu'en cas de dépression. Et puis un troisième type de troubles psychiques qui sont très fréquents, qui font partie des classifications des troubles psychiatriques, et qui sont les addictions. Les addictions définies par un usage excessif, incontrôlé, avec des conséquences négatives pour la santé et la vie sociale, de certains types de produits ou de certains types de comportements, puisque les addictions peuvent concerner des produits psychoactifs, mais aussi un certain type de comportement. L'addiction se manifeste aussi par des symptômes de craving, de tolérance et de symptômes de manque. Et on estime que 5 à 12% de la population est concernée à tout moment. Donc, voilà, ces troubles sont fréquents, avec des impacts importants en termes de vie sociale, de vie professionnelle, de vie familiale, et causent de la souffrance à échelle individuelle et aussi pour la société. Alors, pour rester sur les classifications, c'est un panorama assez rapide, bien sûr on pourra y revenir dans la discussion si vous avez des questions précises, mais le fait d'observer les symptômes et de les classer selon différents types de manifestations donne lieu à des évolutions dans le temps. Par exemple, une des évolutions évidemment marquantes est que pendant très longtemps, l'homosexualité a été considérée comme un trouble psychiatrique, jusqu'en 2018 dans la classification internationale des maladies, parce que c'était considéré, alors c'est sur la base des théories psychanalytiques qui ont été donc à la source des premières classifications des maladies psychiques, qui considéraient qu'il s'agissait du résultat d'un conflit interne. Les théories psychanalytiques initiales, en tout cas, considéraient que l'homosexualité était une déviance sexuelle. Donc, évidemment, on sait aujourd'hui que ce n'est pas un trouble psychiatrique. Par contre, de nouveaux types de troubles ont émergé avec le temps, notamment le trouble du jeu vidéo, qui est inclus dans les classifications internationales depuis 2018, et qui est une forme d'addiction au jeu vidéo, qui concerne probablement entre 5 à 6% des jeunes, plutôt des garçons que des filles. Voilà. Mais en tout cas, il s'agit d'un comportement compulsif où on joue de manière répétée, au détriment d'autres activités de sa vie, et sans pouvoir contrôler ce comportement. D'autres types d'addictions sont en cours de réflexion, notamment l'addiction à Internet ou aux réseaux sociaux, qui n'est pas considéré comme une addiction. L'addiction au shopping, l'addiction au chocolat non plus, c'est pas des addictions. Voilà. Peut-être un jour, mais en tout cas pas aujourd'hui. Voilà. Et d'autres types de troubles ont émergé récemment. On parle beaucoup de l'éco-anxiété, c'est-à-dire d'une forme d'anxiété particulièrement liée aux questions environnementales. Ce n'est pas aujourd'hui considéré comme un trouble psychique à part entière, mais il existe des recherches pour essayer d'identifier les spécificités de ces manifestations anxieuses, en particulier de déterminer s'il s'agit vraiment d'un trouble nouveau, c'est-à-dire est-ce que des personnes deviennent éco-anxieuses alors qu'elles n'étaient pas du tout anxieuses auparavant, est-ce qu'il s'agit d'une classification, d'une manifestation anxieuse particulière. Donc voilà, ça c'est pour le DSM. Je voulais quand même mentionner le fait qu'il existe en particulier en France d'autres classifications des troubles psychiques qui n'ont pas vocation à être des classifications qui servent à faire de la recherche, qui est quand même la vocation principale du DSM, même s'il est utilisé aussi à d'autres fins, en particulier aux États-Unis, mais peut-être en France aussi dans une certaine mesure. Il y a toute une discussion sur le fait que les classifications, la définition des troubles psychiques à des fins de recherche n'est pas forcément toujours pertinente pour la clinique et que inversement, la manière dont les symptômes de mal-être se manifestent en clinique peuvent être importantes en elles-mêmes et servir à la clinique. Et donc, en France, il y a une classification qui s'appelle la classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, dont voilà, il sera peut-être question dans la deuxième partie de ce cours, qui est maintenant, c'est-à-dire qui a été repensée pour maintenant proposer une classification qui concorde avec la classification internationale des maladies. Et qui est basé sur la clinique, dans l'idée que l'existence d'une symptomatologie même bruyante ne constitue pas à elle seule la condition d'une pathologie. Et je pense que c'est vraiment une distinction très importante et très, très complexe. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on définit un trouble psychique à partir des symptômes qu'on observe ou à partir d'autres éléments ? Il me semble que c'est une question qui est difficile à résoudre et qui est difficile parce que en fait, mesurer la santé mentale présente un certain nombre de challenges. Alors, le premier challenge, c'est qu'on n'a pas de tests biologiques qui permettent d'identifier la présence d'un trouble psychique. Et ça, c'est quand même une distinction majeure avec d'autres branches de la médecine qui donne lieu de ce fait à des débats, à des discussions et à des classifications qui évoluent dans le temps comme je voulais montrer. Je vais vous montrer aussi certaines approches qui essaient de viser vers cette identification de tests biologiques. Certains psychiatres, certains chercheurs ont cet objectif et on y arrivera peut-être un jour. Mais pour l'instant, il n'existe pas de test biologique permettant d'identifier si quelqu'un a ou non un trouble, une schizophrénie, un trouble bipolaire, encore moins une dépression ou un trouble autistique. Je l'ai déjà dit, mais les définitions et les cadres conceptuels sont variables, c'est-à-dire si on se place du point de vue de la clinique ou du point de vue des théories qui ont été développées pour essayer de comprendre la psyché, on observe des choses et on les mesure de manière totalement différente. Alors, les biais d'évaluation, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour les épidémiologistes. Si on part des observations cliniques, c'est-à-dire des personnes qui viennent se présenter dans des structures de soins, on n'observe pas les mêmes types de manifestations de mal-être si on fait des enquêtes en population générale. Et si et on peut à la fois chacun et chacune avoir une appréciation subjective de son propre état et de celui des autres personnes si on évalue la santé mentale de quelqu'un d'autre, parce qu'on a des biais d'évaluation qui nous sont propres, mais aussi parce que c'est une thématique, la santé mentale continue d'être stigmatisée à tel point qu'il existe un phénomène qui s'appelle l'autostigmatisation, au travers duquel les personnes concernées elles-mêmes considèrent que leurs symptômes sont négatifs et ont un impact, c'est-à-dire leur cause des problèmes, et donc peuvent être amenées à ne pas évaluer ces symptômes de la manière la plus neutre ou objective possible. Je voulais juste vous montrer deux questionnaires, donc qu'on appelle des échelles d'évaluation de la santé mentale, qui sont énormément utilisées dans les enquêtes épidémiologiques. Donc quand on vous dit 5 à 7% de la population en France a un trouble dépressif, comment le sait-on ? On le sait parce qu'il existe de grandes enquêtes où on pose aux participants ce type de questions. Au cours des deux dernières semaines, selon quelle fréquence avez-vous été gêné par les problèmes suivants ? Vous avez eu peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses ? Vous avez été triste, déprimé ou désespéré ? Vous avez eu des difficultés à vous endormir ou à rester endormi ? Ou vous avez dormi trop ? Vous vous êtes senti fatigué, vous avez manqué d'énergie, vous avez eu peu d'appétit ou vous avez mangé trop, vous avez eu une mauvaise opinion de vous-même, ou vous avez eu le sentiment d'être nul, d'avoir déçu votre famille ou de vous être déçu vous-même. Vous avez eu du mal à vous concentrer, vous avez bougé ou parlé si lentement que les autres auraient pu le remarquer, ou au contraire vous avez été si agité que vous avez eu du mal à tenir en place. Et vous avez pensé qu'il vaudrait mieux mourir ou envisager de vous faire du mal d'une manière ou d'une autre. Donc là, il s'agit d'une échelle qui s'appelle le PHQ-9, qui pose donc 9 questions. Selon les réponses, jamais, plusieurs jours, plus de la moitié du temps, presque tous les jours, on les additionne, ce qui permet d'obtenir un score. Et on considère que si les personnes ont entre 0 et 4 points, elles ne sont pas déprimées elles ne sont pas déprimées. Entre 5 et 9, un score entre 5 et 9 correspond à une dépression légère, etc., jusqu'à une dépression sévère si on a la plupart de ces symptômes la plupart du temps. Pardon d'avoir été un peu dans le détail, mais je pense que c'est important vraiment de montrer comment on mesure ces questions. Donc, l'intérêt de ce questionnaire et la raison pour laquelle il est énormément utilisé, c'est parce que chacun peut le remplir soi-même. Donc, il est utilisé, par exemple, dans des enquêtes téléphoniques, des grands sondages où on interroge les gens par téléphone et l'enquêteur va vous poser ces différentes questions. On l'utilise aussi dans des enquêtes où on demande aux personnes de répondre elles-mêmes à ces questions. Là, il s'agit d'un autre questionnaire qui porte sur les symptômes d'anxiété et on procède de la même manière. Alors, bien sûr, on ne peut pas procéder de cette manière pour mesurer la fréquence des troubles psychotiques, par exemple. C'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, on a très peu de données fiables sur la prévalence des troubles psychotiques en population générale, parce que pour évaluer les troubles psychotiques, pour le coup, il faut l'évaluation d'un spécialiste et, si possible, un professionnel de santé. Pareil pour les troubles du neurodéveloppement tels que l'autisme. Mais pour d'autres types de pathologies plus fréquentes, on peut s'appuyer sur des enquêtes, des questionnaires auto-rapportés et les faire, les diffuser au sein de la population générale. Alors, pour finir, je voudrais parler des quelques débats et controverses dans ce domaine. Et où nous en sommes aujourd'hui et les réflexions sur la définition des troubles psychiques pour l'avenir. Comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une question sur la fiabilité des symptômes comme marqueur de maladie. Alors pourquoi ? Parce que les symptômes tels qu'ils sont aujourd'hui définis pour chacun des troubles psychiques de la Classification internationale des maladies ou du DSM sont assez hétérogènes, ce qui donne des groupes diagnostiques très très divers. D'ailleurs, Ces groupes diagnostiques, s'ils servent à peut-être avoir un aiguillon et pouvoir mesurer au sein de la population l'évolution de la fréquence des troubles, ne sont vraiment pas conçus pour pouvoir soigner les gens. C'est-à-dire que on sait que le diagnostic de la dépression tel qu'il est défini dans le DSM est beaucoup trop vaste et beaucoup trop large pour identifier quelles sont les personnes qui ont nécessairement besoin d'un suivi. Et le type de prise en charge médicale en particulier. L'autre problème avec les classifications existantes, c'est que les troubles, alors on parle de comorbidité entre différents types de troubles, c'est-à-dire que quelqu'un qui a par exemple un trouble dépressif a aussi de fortes chances d'avoir des troubles anxieux ou des problèmes d'addiction. Et donc il y a assez peu de spécificité. Et non seulement il y a peu de spécificité, mais les recherches nous montrent aussi que les facteurs de risque de ces troubles, qu'ils soient génétiques ou qu'ils soient psychologiques ou liés à ce qui se passe dans la vie des personnes, sont assez partagés entre eux. Donc en fait, si on a des classifications, des catégories diagnostiques assez larges et qu'en réalité les mêmes facteurs sont associés à un risque de dépression ou de troubles anxieux ou d'addiction, dans une certaine mesure, en fait, ces catégories ne nous renseignent pas suffisamment, ne sont probablement pas suffisamment précises. Il y a des effets de seuil évidents. Je vous ai montré une échelle où on interroge les personnes sur les symptômes de dépression. Il a été défini en croisant les résultats de ce type d'évaluation avec des évaluations faites par des médecins que, au-delà d'un certain nombre de symptômes, d'un certain score, la probabilité que la personne ait une dépression qu'un psychiatre identifierait comme étant un trouble d'importance clinique est élevée. C'est comme ça qu'on définit ces seuils. Mais évidemment, c'est une approche probabiliste et d'une part, des personnes qui ont des symptômes qui sont inférieurs au seuil peuvent aussi ressentir de la souffrance et d'autre part, ces seuils sont plus ou moins approximatifs. Et puis, on observe aussi que, bien sûr, les symptômes peuvent évoluer au cours de la vie. Je vous disais tout à l'heure qu'un épisode dépressif dure en moyenne 6 mois, mais on s'aperçoit que dans la moitié des cas, soit les personnes ont des symptômes qui perdurent, soit leurs épisodes dépressifs peuvent revenir. Et donc, en fait, ce qui est important pour définir la santé mentale et les maladies psychiques, c'est non seulement ce qui se passe à un moment T, mais aussi la manière dont les personnes évoluent au cours du temps. Et c'est important pour les médecins, bien sûr, mais c'est aussi important en termes de recherche. C'est ce qui permet peut-être un tout petit peu plus de spécificité. Alors, je vais finir en vous montrant donc deux approches qui ont été proposées pour essayer de prendre en compte cette complexité et qui sont à une étape assez expérimentale pour le moment, mais qui sont peut-être la voie du futur. Alors, le National Institute of Mental Health américain, au début des années 2000, a proposé à peu près au moment où la dernière version du DSM allait être publiée d'ailleurs, a proposé une nouvelle approche qui s'appelle Research Domain Criteria, pardon, qui n'est pas très connue en France, mais qui est beaucoup utilisée aux États-Unis désormais, et qui là renverse complètement le paradigme, puisqu'il s'agit de partir non pas, enfin, il s'agit de se dire que les maladies psychiques sont non pas les symptômes qui expriment les personnes, mais un certain nombre de dysfonctionnements cérébraux qu'on peut observer au travers des neurosciences. Et que c'est de cette manière-là qu'on va rendre l'approche et la mesure des troubles psychiques plus scientifiques, plus rigoureuses et plus précises. Parce qu'en réalité, les recherches en neurosciences sur le fonctionnement du cerveau ont énormément avancé. On a des techniques d'investigation absolument incroyables aujourd'hui et un niveau de précision extraordinaire. Mais il y a un gap énorme entre tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le fonctionnement du cerveau et la clinique en termes de santé mentale. Et donc, il y a c'est un peu le principe de base de cette classification. Et donc, l'idée est que, à l'avenir, il faudrait que les neurosciences renseignent plus ce que l'on considère, les définitions de la santé mentale et aussi la clinique, et que cela va passer par un changement de classification des troubles psychiques. L'idée est que, à la fois, dans cette classification, les résultats des neurosciences sont donc au cœur de la définition des troubles psychiques. On parle non plus de catégories binaires, mais plutôt de dimensions psychologiques qui sont donc sur un continuum. Cette classification intègre des éléments biologiques et comportementaux. Donc les niveaux de symptômes sont mesurés de manière dimensionnelle et non plus de manière binaire oui-non. Et puis, on intègre donc les trajectoires développementales et des facteurs environnementaux dans l'idée que la santé mentale se déploie tout au long de la vie. Alors, pour l'instant, cette approche est en partie utilisée dans des recherches en neurosciences. Elle n'est évidemment pas utilisée du tout pour diagnostiquer ou soigner les personnes, mais c'est l'objectif. Une autre approche qui a été proposée est celle c'est une approche qui est proposée par des psychologues qui consiste à en fait se défaire des catégories de troubles qui existent aujourd'hui et avoir une vision dite transdiagnostique. À partir de l'idée que les principaux troubles psychiques ont des symptômes en commun, des facteurs de risque en commun. On sait maintenant, au travers des recherches en neurosciences, que certains des mécanismes cérébraux sous-jacents sont partagés également. Et en plus de ça, les traitements ne sont pas spécifiques. Et en particulier, si on pense par exemple aux troubles dépressifs, troubles anxieux, on peut utiliser des traitements. Les traitements ne sont pas spécifiques. L'idée, c'est qu'en fait. Plutôt que de distinguer différents types de troubles anxieux, différents types de troubles dépressifs, il s'agirait de regrouper l'ensemble de ces difficultés dans l'idée que nous avons chacun une certaine propension à la psychopathologie qui va se manifester de différentes manières, soit par des troubles anxieux, soit par des troubles dépressifs, soit par des addictions, soit par d'autres types de difficultés, à un moment donné de la vie qu'on ne peut pas prédire et d'une façon qu'on ne peut pas prédire en fonction d'un certain nombre de facteurs de risque. Donc là aussi, il s'agit d'avoir une approche longitudinale, croisant différents types de diagnostics pour correspondre plus à la clinique en réalité. Et donc c'est très différent de ce que je viens de vous dire il y a deux secondes sur les neurosciences. Là, c'est une approche qui part dans une direction différente. Et puis enfin, pour terminer, la recherche avance. Il y avait beaucoup d'espoir dans la recherche en génétique, notamment. On sait que les troubles psychiques sont hérités au sein des familles et énormément de moyens ont été mis en œuvre pour essayer d'identifier des facteurs génétiques qui pouvaient prédire la survenue de certains types de troubles. Le génome humain a été décodé dans les années 2000, mais on n'a pas trouvé les gènes de la psychopathologie, des troubles psychiques, et peut-être d'une certaine manière, tant mieux. Ce qui a émergé entre-temps, c'est plutôt l'idée que, oui, on a un terrain génétique, chacun et chacune, qui peut peut-être favoriser le risque de certains types de problèmes psychiques, mais ce terrain génétique n'est important que si il est en interaction avec des conditions de vie, des événements de vie, des choses qui nous arrivent dans la vie de tous les jours. C'est plutôt... tout ce qui concerne l'épigénétique, dont on parle, j'aborderai au cours d'un des prochains cours début 2026. Mais on n'a pas trouvé les facteurs de risque génétiques, mais il n'empêche que des recherches très poussées continuent de rechercher des biomarqueurs sanguins, des biomarqueurs en termes d'imagerie médicale, par exemple, qui pourraient identifier la présence d'un certain type de trouble et aider au diagnostic. On est encore très très loin de l'idée que des biomarqueurs pourraient remplacer les symptômes exprimés par les personnes comme source et comme base du diagnostic, on arrivera peut-être un jour à trouver des biomarqueurs qui appuient le diagnostic basé sur les symptômes exprimés par les personnes. Alors, pour finir, pour qu'on ait le temps d'échanger si vous le souhaitez, comment mesurera-t-on la santé mentale demain ? C'est difficile à dire. Vous voyez qu'aujourd'hui, s'opposent des courants très très différents entre des approches basées principalement sur la clinique, qui continue d'exister et qui continue d'être la manière dont on identifie les troubles psychiques dans le système de soins, en tout cas c'est le cas en France, des approches très basées sur les neurosciences et qui vont certainement, connaître un essor puisque les techniques permettant d'étudier le cerveau humain ont énormément évolué et vont continuer à évoluer. Et puis des approches qui vont plutôt chercher du côté de manifestations biologiques, pas forcément dans le cerveau, qui pourraient aussi être des compléments d'information Donc voilà, c'est une question ouverte, j'ai pas du tout de réponse à cette question. Je pense qu'en tout cas, on va certainement vivre des évolutions importantes dans les années à venir, et que quoi qu'il arrive, quelles que soient les approches, enfin, d'abord, il existe aujourd'hui différentes approches et elles cohabitent, et c'est probablement comme ça que les choses vont continuer à l'avenir, en tout cas pour le moment. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'on peut s'interroger sur voilà, qu'est-ce que la santé mentale, comment la mesurer, qu'est-ce qu'on met derrière les mots et les termes, parce que c'est aussi comme ça que la réflexion avance. Voilà. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.